Stéphane Blanc, bonjour. Alors, avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Donc oui, je suis Stéphane Blanc, donc je suis psychologue clinicien, membre de l'association AP21. J'exerce à l'unité de soins palliatifs, le PATIO, au centre hospitalier de Draguignan dans le Var.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la peur de la mort. Nous vous écoutons.
Oui, donc pour cette intervention, je vais vous parler de la peur de la mort en me focalisant sur les conséquences sur le fonctionnement psychique humain de celle-ci. Bien que la thématique de la mort soit influencée par de nombreux domaines, comme par exemple la dimension spirituelle de l'être ou les représentations sociétales qui ont un impact important sur sa perception et sa gestion par les différents êtres, je vais pour ma part m'axer uniquement sur l'approche psychologique de celle-ci. Pour les autres dimensions, vous pourrez vous référer aux études des sociologues proposées dans le domaine ou aux nombreux ouvrages spirituels qui apportent également un éclairage très intéressant et complémentaire sur cette thématique. Donc la thématique de la mort est au cœur de ma pratique professionnelle. En effet, depuis 4 années, j'exerce mon métier de psychologue au sein de l'unité de soins palliatifs, le PATIO, donc du centre hospitalier de Draguignan. Donc cette unité, elle fait une partie du département de soins d'accompagnement du Var-Est, qui se compose donc d'une unité d'hospitalisation de 10 lits pour les situations complexes où j'interviens, et une équipe mobile intra-hospitalière en soins palliatifs qui intervient sur les différents hôpitaux du secteur, et puis d'un réseau de soins palliatifs à domicile. Donc au sein de l'USP, je suis confronté au quotidien aux angoisses générées par cette proximité de la mort, tant au niveau des patients, de leurs proches, que de l'équipe soignante. Pour cette intervention, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans les détails métapsychologiques de la genèse de l'angoisse de la mort, dont est inhérente cette peur, car cela nécessiterait de se référer à de nombreux concepts que je ne pourrais décrire dans le temps qui m'est imparti. Ainsi, après une brève évocation de l'origine psychologique de cette peur de la mort, je vais m'axer principalement sur la gestion psychique de celle-ci. L'objectif étant de vous donner quelques repères concrets vous permettant d'objectiver la situation et de mettre du sens sur certains comportements, tant au niveau de la personne impactée que de ceux qui l'accompagnent. Pour cela, je vais vous décrire certains mécanismes défensifs que l'on rencontre régulièrement dans la gestion des angoisses liées à la fin de vie. L'objectif n'est pas de donner un listing exhaustif, mais d'imager l'ampleur du panel défensif que possède notre psychisme. Une fois la situation analysée du point de vue de chacune des parties prenantes, il nous sera possible de savoir s'il est judicieux ou pas d'échanger directement sur la mort. Dans son ouvrage Face à la maladie grave, patient, famille, soignant, Martin Rusniewski indique que toute souffrance implique la préexistence d'une souffrance secrète, fondamentale, fantasmatique et souvent antérieure à toute douleur physique. Cette souffrance préexistante, que l'on retrouve chez l'homme dit bien portant, dont le corps n'est pas encore atteint, c'est la souffrance psychique d'une mort fantasmée, augurée, qui est enfouie massivement, mais qui reste toujours en suspens. Il est ce préalable douloureux, mais indispensable, à l'édification de l'angoisse originelle, d'un esprit encore libre de se créer sa propre image de la mort. Néanmoins, dans cette atmosphère d'appréhension, de présomption, l'homme va s'autoriser, au moyen de combinaisons d'images, de visualiser sa propre mort. Cet être qui souffre de sa souffrance à venir croit encore qu'il a une prise sur cette mort imaginée et irréelle, sur ce temps qu'il reste avant ce face-à-face, dont il entrevoit l'angoisse réalité. Nous retrouvons ici ce que décrivait Sigmund Freud : Je me sais mortel, mais je me veux immortel. Or, avec l'apparition de la maladie grave, ou avec la dégradation physique inhérente à la vieillesse, ou dans le cadre de l'accompagnement d'une personne en fin de vie, la mort quitte l'imaginaire pour faire intrusion dans le réel. Ce passage de l'imaginaire au réel peut s'effectuer de manière plus ou moins brutale. Alors que le vieillissement s'inscrit dans le temps, l'intrusion d'une maladie grave peut être plus ou moins rapide, en fonction de la durée des examens nécessaires avant la confirmation du diagnostic. Durant cette période d'entre-deux, l'individu est à mi-chemin entre le monde des bien portants, dont il a l'impression de faire encore partie, et celui des malades, où il n'ose pas encore se ranger. Tant d'une fulgurante angoisse suspendue aux quelques mots du médecin qui feront tomber la sentence, barrant d'un trait la vie antérieure d'ores et déjà révolue et hors d'atteinte. Durant cette temporalité, où la réalité de la mort prochaine s'impose au sujet, l'angoisse va se construire, se développer, voire envahir l'individu en fonction de sa perception de la vie, de la souffrance et de la mort. C'est à ce moment-là que se mettent en place les mécanismes de défense. Au quotidien, l'être humain doit affronter une multitude de peurs et d'angoisses afférentes à des sphères multiples, tant psychiques que matérielles. L'angoisse est inhérente à une position d'attente face à un événement dont la personne n'a pas la maîtrise. Ainsi, elle intervient particulièrement dans le cadre de la mort, car celle-ci est un élément qui nous échappe et qui laisse le sujet dans la complète incertitude. Face à cela, le psychisme de l'individu a recours à des mécanismes de défense, plus ou moins adaptés à la situation rencontrée. En psychologie, un mécanisme de défense est un processus intrapsychique inconscient destiné à protéger des conflits émotionnels et de l'anxiété. Des efforts conscients sont souvent faits pour les mêmes raisons, mais les vrais mécanismes de défense sont inconscients. Ainsi, au cours du cheminement de l'individu, différentes défenses vont être sollicitées, en fonction de l'état de détresse, de l'ampleur des angoisses à gérer et des spécificités de la réalité de la situation. En fonction du moment, celles-ci vont s'avérer efficaces, puissantes, inconstantes, précaires ou fragiles, mais surtout instables et fluctuantes. Elles devront agir à tous les niveaux, afin de tenter de protéger chacune des facettes meurtries de la personne. En effet, le sujet doit affronter une multitude d'angoisses qui sont liées à des sphères diverses, tant au niveau physique, psychique que matériel. Cette lutte entraînera une extrême complexité dans chacune des relations que la personne tentera de nouer ou de conserver. Effectivement, les défenses viendront mettre à mal les proches et les soignants, en les perturbant et les désarçonnant parfois. Cependant, la personne ne pourra pas s'en passer. Sa dégradation physique vient mettre en jeu sa vie, unique bien sur lequel il ne peut transiger, menace contre laquelle il doit se défendre coûte que coûte. Il ne s'agit plus d'un fantasme, d'une angoisse liée à la peur de voir mourir l'autre. C'est la personne elle-même qui se trouve happée dans la spirale de la mort, sur laquelle elle a de moins en moins de prise. Une telle situation justifiera la mise en place de tous les mécanismes susceptibles d'atténuer quelque peu les douleurs, les souffrances et les angoisses. Alors que nous pourrions croire que ces mécanismes soient distincts et spécifiques aux différents types de personnalités, comme les personnalités obsessionnelles, hystériques, etc. Dans la pratique, nous constatons que nous pouvons retrouver l'ensemble de ce spectre défensif chez chacun d'entre nous. Dans l'idéal, l'individu sollicitera diverses défenses en fonction de la situation à affronter, lui permettant ainsi de conserver une certaine stabilité émotionnelle. Néanmoins, si la personne présentait initialement certains troubles psychiques ou que les angoisses deviennent ingérables face à l'aggravation de la situation, certaines défenses vont se figer, générant ainsi des comportements anormaux, inhérents à leur spécificité, qui seront des difficultés supplémentaires pour les accompagnants. Je vais maintenant procéder à la description de certains mécanismes de défense que l'on peut observer chez la personne confrontée à sa mort imminente. Donc la première est le déni ou la négation ou annulation. Face à la maladie grave, au caractère incurable de celle-ci ou à la dégradation physique, l'individu va réagir en niant cette réalité qui n'est pas acceptable pour lui. Certains l'adapteront au début, lorsque la réalité n'est pas encore très prégnante, puis le dépasseront. D'autres l'utiliseront lors de moments plus difficiles à assimiler. Alors que certaines personnes n'iront jamais recours, d'autres pourront demeurer de façon permanente dans le déni, mettant ainsi en difficulté l'entourage. De plus, le déni est un tel poison curatif qu'il ne s'arrête pas au territoire qu'il veut anesthésier, son effet s'étend bien au-delà. Ainsi, la personne pourra récuser tout ce qui a trait aux limites, à la perte, aux sentiments. La conséquence sera alors l'appauvrissement de sa vie psychique. Face au déni, l'accompagnant devra respecter cette réaction défensive, qui peut être déstabilisante pour lui. En effet, il est nécessaire de laisser au psychisme du sujet le temps qui lui est nécessaire pour intégrer ce changement et permettre l'expression de ses peurs. De manière plus concrète, il faudra ni briser le déni en imposant de force une réalité traumatisante pour le sujet, ni le renforcer en confirmant qu'il n'a rien d'alarmant. L'objectif est de rester le plus neutre possible afin de respecter le rythme du cheminement de l'autre. Alors une autre défense, c'est le clivage du moi. Donc ça se définit comme la coexistence au sein du moi de deux attitudes psychiques différentes face à la réalité extérieure, en tant que celle-ci vient contrarier aux exigences pulsionnelles. Nous aurons une partie du psychisme qui tient compte de la réalité et une autre partie qui la dénie en mettant en place une production de désir. Ainsi, la personne malade pourra parler de façon cohérente de la gravité de la situation, voire de son décès imminent, et aborder par la suite son projet de futur voyage dans un pays lointain, décontenançant alors son entourage. Alors nous avons aussi la colère. Confrontée à la dégradation de son état, la personne manifeste de la colère et de l'agressivité envers le monde extérieur. Celle-ci pourra se fixer sur un membre de la famille, certains soignants, la société, voire Dieu. Cette agressivité réactionnelle peut générer un rapport de force avec les autres. Pour l'entourage, l'objectif sera de ne pas prendre cette colère pour soi et d'accepter qu'elle se manifeste. Cette agressivité peut réactiver le sentiment de culpabilité du sujet. Je suis quelqu'un de mauvais, et lui faire découvrir des versants de sa personnalité qu'il ne suspectait pas. Je n'ai jamais réagi de cette façon. Un tel comportement peut lui paraître dangereux, car il connaît sa dépendance envers les autres, d'où la réactivation de ses peurs d'être abandonné. En retour, il faudra donc le rassurer et le préserver dans son estime de soi. D'autre part, nous pouvons également percevoir cette manifestation agressive comme un appel déguisé aux personnes qui seraient éventuellement capables de mettre fin à la souffrance du patient, comme le monde médical ou Dieu. Après, nous avons le marchandage. Donc là, la personne va tenter de gagner du temps avec la mort en lui proposant une sorte de marchandage. Encore 3 mois que je puisse être présent au mariage de mon petit-fils. Par cette négociation, il tente de reprendre un certain contrôle face à cette situation qui lui échappe. Cela lui permet également d'avoir une prise de conscience graduelle des conséquences réelles de la situation. Alors nous avons aussi comme réaction la dépression, où là la personne se replie sur elle-même. Elle n'a plus envie de lutter. Cela fait penser à un processus de désinvestissement libidinal progressif, en rapport avec une prise en compte de la réalité par le moi. La tristesse est alors omniprésente. L'accompagnement devra trouver un équilibre entre stimulation et prise en compte de cette souffrance qui doit pouvoir s'exprimer. Cela sollicitera ses capacités d'écoute, de présence. Donc ces premiers mécanismes défensifs se retrouvent dans les 5 phases du deuil décrites par la médecin suisse Elisabeth Kübler-Ross en 1969, qui sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Phases qui peuvent aussi se rencontrer dans toutes les situations de grand stress, lors de pertes d'autonomie, sorte de deuil, ou au moment de la fin de vie. Ces étapes peuvent se repérer dans n'importe quel ordre, avec des allers-retours successifs, et cela de manière plus ou moins chaotique. Alors comme mécanisme de défense, nous avons aussi la dénégation, où le patient met en jeu des pensées qui lui permettent d'effacer du discours de l'autre toutes les menaces qui ne peuvent pas encore être entendues. Ce mécanisme est moins entier que le déni, car il impacte seulement une information de la situation. En abrogeant cette expression, le patient annule la représentation de la réalité qui lui est insupportable. Par exemple, le patient comprend qu'il est malade, qu'il va devoir subir des traitements, mais rejette le terme de tumeur, trop associé à la mort pour lui. Néanmoins, ce mécanisme s'avère encore trop massif pour pouvoir être conservé tout au long de la maladie. Dès que la réalité s'impose, les mots « annulés » et « interdits » s'imposent à la conscience. Alors nous avons aussi l'isolation. Dans ce cas, la personne reconnaît la gravité de son état, mais s'attache à la décrire avec précision et détachement, manifestant une impassibilité. Elle explose, comme sous la forme d'un compte-rendu froid et insensible, aussi distant et inexpressif que possible. Les mots utilisés sont dénudés de toute affectivité. La personne intellectualise la situation, en la transposant dans un autre corps que le sien. Ainsi, elle parvient à affaiblir la réalité en la privant de tout lien associatif avec elle-même. Nous avons aussi le déplacement. Donc là, l'individu choisit une cible plus accommodante et plus conciliante, transférant l'angoisse inhérente à la situation sur un élément substitutif, Par exemple, une patiente atteinte d'un cancer avec un pronostic létal qui rencontre son médecin et donc le médecin lui demande « Comment allez-vous aujourd'hui ? Vous ne parlez pas aujourd'hui, vous avez mal ?» Et elle répond « Non, c'est ma fille. » Alors le médecin dit « Comment ça, votre fille ?»« Oui, je ne sais plus comment faire pour elle, elle ne fait plus rien à l'école. Docteur, vous ne pourriez pas lui parler ?» Donc là, on voit bien le déplacement où le patient va se fixer sur sa fille et plus sur sa maladie. Après, nous avons la rationalisation. Donc, en cherchant à comprendre l'origine de la situation, le sujet croit en trouver une justification lui permettant de mieux l'appréhender. Cette connaissance lui permet de conserver un certain contrôle et l'aide ainsi à ne pas laisser s'enfuir ce corps qui lui échappe. Alors, nous avons aussi l'hypermaîtrise ou le rite obsessionnel, avec la peur d'un faux pas fatal qui incite la personne à tenter de contrôler son environnement. Il apparaît ainsi des comportements de type obsessionnel, qui peuvent se concentrer sur la propreté et l'hygiène, ou sur une vigilance extrême sous forme d'idées fixes, de surveillance permanente. La mise en place de ces rituels permettent de gérer l'angoisse. Ils redonnent une impression de contrôle, de pouvoir faire quelque chose pour maîtriser l'environnement devenu menaçant. Alors nous avons aussi la régression. Face à la peur d'une souffrance paraissant sans secours ou d'une douleur désorganisatrice, le sujet peut procéder à un retour vers des modes de maîtrise plus primitifs qui avaient jadis fait leurs preuves, tant où il y avait davantage de paix, de plaisir et de gratification. Le retour à ces modes de fonctionnement psychique devenus obsolètes, rigides et limitants se fait d'autant plus facilement par le moi, que le moi l'avait déjà eu dans l'enfance à lutter contre des souffrances excessives et donc il avait utilisé ces moyens-là. Le sujet étant dans l'impossibilité de lutter activement contre la situation, il se laisse porter à prendre en charge par son environnement. Par ce mouvement régressif, il perdra toute initiative, volonté et autonomie. Nous pourrons même voir apparaître des comportements infantiles et puérils, avec des demandes de maternage, de l'égocentrisme, engendrant dépendance et passivité. Nous pouvons aussi observer une deuxième forme de régression avec un repli sur soi à un niveau très archaïque. La personne ne renvoie alors plus aucune forme de communication. Elle se réfugie dans le sommeil. Ces moyens radicaux peuvent générer des troubles de fonctionnement psychique chez la personne, avec l'apparition de tableaux psychiatriques, tels que des décompensations psychotiques. Alors nous avons aussi le trouble convulsionnel. Donc, il se manifeste par des périodes de perte de contact avec la réalité, hallucinations, délires. Selon Sandor Ferenczi, psychanalyste contemporain de Freud, la désorientation psychique agit comme une soupape face à l'autodestruction, par l'arrêt de la perception du mal grâce à une déconnexion avec l'environnement menaçant et traumatique. Ainsi, la confusion serait une tentative du sujet de se soustraire de cette menace de mort. Néanmoins, ce mécanisme n'atteint pas son but, comme le manifestent les angoisses observées. La personne aura alors besoin d'écoute et de réassurance de la part de son entourage. Parfois, nous pouvons observer une absence d'angoisse ou de peur, voire même au contraire une amélioration de l'humeur du patient, malgré ce comportement semblant hallucinatoire. Dans ce cas, nous sommes plutôt dans le cadre de ce que l'on nomme des manifestations de conscience accrue à l'approche de la mort. Donc ce phénomène étudié par les chercheurs intéressés par les domaines des expériences extraordinaires va demander aux autres une réponse de la part de la personne qui accompagne. Cette expérience se manifeste au moment du trépas par des visions, pendant lesquelles le mourant peut avoir ou entendre des proches décédés ou des figures spirituelles. Certains évoquent la vision d'un environnement inconnu. Ces expériences leur permettent de se projeter vers un au-delà de la limite de la mort physique, ce qui a un effet rassurant sur eux. En l'espace de quelques secondes, le malade peut passer d'un état dépressif et désespéré à une intense exaltation ou à une grande quiétude. Face à cela, il faut écouter les propos de la personne avec un esprit bienveillant, en respectant son vécu subjectif. L'objectif est de ne pas prendre position, en adhérant ou en rejetant, mais de permettre au malade d'exploiter ce levier qui lui permet d'être moins angoissé. Par exemple, si le malade demande si nous voyons l'être qui se trouve dans la chambre, nous pouvons lui répondre que nous ne le voyons pas, mais que nous sommes conscients que lui peut le voir, et que nous sommes contents de constater que cette présence puisse lui faire du bien. Donc dans les mécanismes de défense, nous avons aussi la combativité, où là la personne manifeste une énergie surprenante, voire prodigieuse, qui lui permet d'éloigner son découragement, sa lassitude, pour laisser place à de l'espoir, de l'action. Ce dynamisme viendra rassurer et réjouir l'entourage. On a aussi la sublimation, Il s'agit du mécanisme le plus réussi. Il consiste à donner un sens à l'épreuve en allant vers l'autre, en rendant constructif et créatif son rapport à l'adversité. Création d'une association d'entraide, rédaction d'un livre d'autobiographie. Ici, la dimension spirituelle de la personne a toute son importance. Nous avons aussi l'humour. Alors que la personne se trouve dans une situation très difficile, voire catastrophique, l'humour lui procure un décalage par rapport au désespoir qui devrait être de mise. Rions de peur de n'avoir envie d'en pleurer. Ce mécanisme est à différencier du rire compulsif, qui est lui-même une défense face à la perte de contrôle de ses émotions. Donc maintenant, on peut passer au mécanisme de défense de l'entourage, qu'il soit proche ou soignant. Accompagner une personne en fin de vie, c'est se confronter à la mort. Bien qu'indirecte, la mort de l'autre, cette confrontation va réactiver les angoisses de mort de l'entourage. Activation qui sera plus ou moins prégnante en fonction du lien affectif existant et du processus d'identification présent dans la relation pour le soignant, en fonction de l'âge, de certaines caractéristiques physiques par exemple. Face à ces angoisses, l'entourage va également solliciter ses propres mécanismes de défense et aura besoin de soutien externe dans la gestion de celle-ci. En effet, rencontrer l'autre dans l'expression d'affect liée à la mort, c'est entrevoir la sienne. Afin de faciliter la gestion de cette souffrance, il est nécessaire que l'entourage ait l'impression que les souffrances de la personne soient prises en charge et que celle-ci conserve sa dignité humaine jusqu'au bout. Au niveau des mécanismes psychiques, nous observons également une adaptation tout au long de l'évolution de la situation. Comme pour le patient, les mécanismes défensifs sont utilisés afin de supporter les angoisses générées par cet accompagnement. Certains sont identiques à ceux des patients, d'autres sont plus spécifiques. C'est eux que je vais maintenant vous décrire. L'identification de ces émotions et de ces mécanismes de défense permet d'optimiser son accompagnement, en limitant l'impact de notre subjectivité sur la situation. Effectivement, les comportements défensifs de l'entourage vont venir interagir avec ceux du patient, d'où la nécessité d'identifier ses propres mécanismes de défense. C'est en s'ouvrant sur soi-même que l'on s'ouvre à l'autre, et que l'on parvient à atteindre sa souffrance. Identifier ses défenses, c'est aussi se révéler, plus apte à reconnaître celle du patient qui va, à son tour et à son insu, instaurer des contre-tensions pour se prémunir de nos réactions défensives. Donc au niveau des défenses psychiques de l'entourage, nous observons le deuil anticipé. Donc il s'agit d'un mécanisme assez extrême. Avec la dégradation de l'état général de la personne, voire l'annonce d'une maladie létale, il se manifeste par un désinvestissement massif et prématuré de la personne, alors que celle-ci est toujours vivante. L'entourage va alors se mettre en retrait, ne rentrant plus en contact avec la personne, voire ne venant plus la visiter. Cela peut s'observer aussi bien au niveau des proches, pour moi il est déjà mort, il ne perçoit plus rien, ça ne sert à rien que je vienne le voir, que de la part du monde médical, avec un médecin qui n'entre plus dans la chambre lors de la visite des patients du service. Alors nous avons aussi le mensonge. Il s'agit du mécanisme le plus ancien, le plus radical et le plus dommageable pour l'équilibre psychique du patient. Il consiste à travestir purement et simplement la vérité, en donnant sciemment de fausses informations sur la nature ou la gravité de la situation. Il s'agit du mécanisme de l'urgence et de l'efficacité primaire. En repoussant le temps de la vérité encombrante, il permet à l'entourage à surseoir à ses propres angoisses, à son propre temps d'adaptation. Mais différer la vérité, c'est différer l'apparition d'une nécessaire angoisse chez le patient. Sans ce temps d'adaptation concédé à celui-ci, ce mensonge initial provoquera un phénomène de sidération, engendré par l'effet de surprise, lors de la découverte de la réalité par la suite. De plus, cette réaction coupe toute possibilité de dialogue autour de la mort et rompt la relation de confiance. Nous avons aussi le mécanisme de la banalisation. Ceci revient à gérer la situation, les symptômes, avant de traiter la personne. Il y a une mise à distance en se maintenant sur un domaine concret, connu et maîtrisé. Nous avons aussi l'esquive. Ici, l'entourage n'est pas dans le registre du mensonge, mais en permanence hors sujet, hors de la réalité environnement. Ainsi, il lui est possible d'éluder l'angoisse contenue dans les questions du patient. Alors, nous avons la fausse réassurance. Donc, incapable de contrôler ses propres angoisses, l'entourage, qui est détenteur d'une réalité que le patient commence à soupçonner, va optimiser les résultats et entretenir celui-ci dans une sorte de faux espoir, simulé et artificiel, alors même qu'il peut déjà ne plus y croire. Donc il y a la rationalisation. Principalement utilisée par le monde médical, elle consiste à se retrancher derrière son savoir technique. Confronté aux questions embarrassantes du patient, l'interlocuteur va utiliser des termes techniques, apportant ainsi des réponses toujours plus obscures, s'engouffrant dans cet imparable domaine de la connaissance non partagée. Après, nous avons donc la fuite en avant. Donc là, elle consiste à tout dire tout de suite, se libérant ainsi d'une vérité trop lourde à porter. Ensuite, nous avons l'identification projective. Ici, l'entourage s'attache à inculquer à l'autre son propre mode d'emploi, la marche à suivre qu'il pense la plus efficace pour lui venir en aide, sans jamais se douter qu'il ne fait là que projeter sur l'autre ses propres souhaits et aspirations. Donc lorsque les défenses deviennent inefficaces ou rigides, ou que les angoisses ne sont plus gérables, il est important que l'entourage ait recours à des aides externes. Savoir passer la main et effectuer un relais dans la prise en charge, si cela est possible. Recourir à des débriefings ou à une supervision auprès de professionnels. Pour conclure sur les différents mécanismes de défense psychique, nous pouvons rajouter qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais mécanismes de défense, mais seulement des personnalités différentes, des souffrances distinctes et des moments d'apaisement et de douleur venant orienter telle ou telle réaction. Notre accompagnement doit prendre en compte leur existence. En effet, les mécanismes de défense sont une sorte d'escorte indispensable au moi qui tente de maintenir à tout prix un état de tension psychique minimal face aux angoisses générées par la mort. Tant que celles-ci ne sont pas gérables, nous ne saurions inciter la personne à en prendre conscience, à les reconnaître ou à les atténuer sans risquer de la déstabiliser. Enfin, il faut être attentif à l'impact de l'association des réactions défensives de la dyade patient-entourage sur la relation. Celles-ci pourront être aussi bien complémentaires, comme c'est le cas lorsque la régression du patient se rencontre un positionnement maternant de la part de l'entourage, qu'antagonique, par exemple l'identification projective de l'entourage qui veut imposer des comportements face à un patient qui est dans l'hypermaîtrise. Alors revenons maintenant à notre thématique initiale, en nous demandant quel positionnement vis-à-vis de la mort et des peurs qu'elle génère, en parler ou pas donc. Je n'ai malheureusement pas, ou heureusement, pas de réponse tranchée à vous proposer. Face à la particularité des parcours de vie de chacun, au caractère unique de la relation établie et à la spécificité de chaque circonstance, il ne peut exister de mode opératoire à appliquer. Nous sommes à chaque moment confrontés à une situation singulière à laquelle nous ne pouvons que nous adapter. Néanmoins, je vais vous soumettre quelques pistes de réflexion. Nous pouvons nous appuyer sur la citation du philosophe grec Héraclite, qui déjà à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ disait « Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face ». Par cette image, nous constatons l'existence d'une mise à distance vis-à-vis de la mort. De son côté, le psychanalyste autrichien Sigmund Freud écrivait en 1920 dans son ouvrage « Essai en psychanalyse » « Au fond, personne ne croit à sa propre mort, ou ce qui revient au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité ». Il écrivait également « Ainsi, souvent, que nous tentons de nous représenter notre propre mort, nous pouvons remarquer qu'en réalité, nous continuons à être là en tant que spectateurs. Ainsi, nous nous raisonnons en nous disant que nous sommes mortels, mais nous gardons l'illusion de notre immortalité, car la mort est la seule chose qui ne soit pas représentable par l'homme. Et pourtant, c'est aussi la seule chose dont nous sommes sûrs qu'elle nous arrivera un jour. » L'inconscient ne connaissant pas la mort, nous avons tendance à la mettre de côté. Malgré tout, elle exerce une influence sur notre existence, puisqu'elle nous confronte sur le fait que notre vie est limitée, même si nous n'en connaissons pas l'expérience sur nous-mêmes. Néanmoins, nous pouvons connaître le vide de la mort de l'autre, si nous en avons déjà fait l'expérience. Dans son ouvrage « La mort ne s'affronte pas », le psychologue Jérôme Alric, qui travaille au département de soins palliatifs du CHU de Montpellier, décrit que « Pour penser la mort, ou penser à proximité de celle-ci, l'humain a besoin de mythes, atténuant ainsi son caractère traumatique. Il dit aussi que les souffrances en fin de vie sont souvent liées à un excès de savoir anticipé sur la mort. Nous retrouvons ici les effets morbides des pronostics vitaux, qui s'appuient sur des données statistiques. Le malade ne fait alors le plus souvent qu'attendre, résigneux et anxieux, l'heure fatidique. Cette injonction faite à la personne de parler de sa mort, voire de l'accepter, oblige celui-ci à se confronter par avance à la représentation de sa mort, à faire le deuil de lui-même, ce qui constitue un forçage psychique, potentiellement traumatique. Parler de la mort et donc l'anticiper revient à l'annoncer, c'est-à-dire la faire psychiquement advenir. Nous retrouvons ici les superstitions sur le fait que de parler de la mort, ça porte malheur, voire ça accélère sa venue. Mais que faire donc? La mort doit-elle devenir un sujet tabou afin de préserver chacun des peurs et des angoisses qui y sont associées, comme le fait notre société en l'aseptisant et en promettant une bonne mort pour tous, sans souffrance, de préférence lors de notre sommeil? Nous retrouvons ici le dispositif de la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, présent dans la loi Leonetti Claes sur la fin de vie. L'humain est-il condamné à affronter seul cet événement? Quel peut donc être le rôle de l'entourage? Une piste de travail peut s'ouvrir avec la démarche de défascination de la mort. Cela consiste avant tout à détourner le regard de ce point de fascination que constitue cette mort anticipée. Cela n'enlève rien au caractère inéluctable de celle-ci, mais ne lui laisse plus le privilège d'être la source de tout sens. Ainsi se met en place une tentative de défascination de la mort. Travailler à défasciner la mort revient au niveau psychique à se dépendre de cette pulsion d'en savoir toujours plus sur la réalité médico-biologique. C'est travailler à retourner cette pulsion de savoir sur le réel de la mort vers une forme d'ignorance qui est au cœur de la vérité subjective, une sorte d'éthique du non-savoir. Cet étayage va rouvrir à une forme de liberté pour la personne. Le sujet retrouve alors une relation d'incertitude vis-à-vis de son destin, le renvoyant de nouveau à la question du mystère qui fonde l'humain, redonnant toute sa place à la dimension spirituelle de l'être. Pour permettre ce travail, il faudra que l'entourage ne soit pas intrusif, pour éviter de basculer dans le forçage psychique décrit par Jérôme Alric. Même si la mort semble imminente et que l'entourage pense que c'est maintenant ou jamais, il faut respecter jusqu'au bout le cheminement de l'autre, quitte à peut-être ne jamais pouvoir en parler directement. En effet, certaines personnes feront comme si de rien n'était avec la mort, jusqu'à leur dernier souffle. Il ne faut pas vouloir pour l'autre, mais suivre et soutenir le mouvement spontané de la vie psychique de chacun, qui tente, tant bien que mal, de gérer le tragique du réel de la mort. L'important est d'être disponible si l'occasion se présente, en s'appuyant sur ses capacités d'écoute et de tendre des perches pour signifier à l'autre que nous sommes en capacité d'aborder cette thématique. Il s'agit d'être présent d'autant que l'autre le demande. Non pas dans une attente particulière et une visée prédéfinie à l'avance, mais pour lui permettre de soutenir son positionnement singulier par rapport à la mort à venir. Cette posture préserve de toute prise de contrôle de l'autre, qui aboutirait tôt ou tard à une morale du bien mourir. En fonction de leur parcours de vie, chacun devra inventer les modalités de réponse qui lui sont propres, l'objectif étant de trouver un accompagnement où chacun peut cheminer sans être trop submergé par ses émotions. Il ne faudra pas devancer les choses, accepter les retournements, les contradictions, voire l'irrationnel. D'où l'intérêt d'avoir toujours en tête l'existence des mécanismes défensifs psychiques de chacun. Pour conclure, je terminerai par une citation du médecin du département de soins palliatifs du CHU de Montpellier, Jean-Pierre Benezek. Plus il y a d'individualité, plus il y a peur de la mort. Plus l'humain dans ses situations historiques, ses rapproches philosophiques, ses démarques dans l'ensemble du groupe, plus la dimension traumatique de la mort vient fracasser son entendement. Sur les dernières décennies, l'individu a rompu les amarres avec ce qui pouvait contenir son angoisse, la dimension sociétale et religieuse. Ainsi, depuis le romantisme, le nihilisme, les philosophies d'après la mort de Dieu, l'individu se trouve confronté à une solitude qui devient désespoir lorsque la mort se précise. Ainsi, si nous souhaitons diminuer cette peur de la mort, osant en parler avec les autres et appuyons-nous sur toutes nos ressources, dont celles spirituelles. Pour étayer cela, nous pouvons nous référer à des publications scientifiques démontrant que les relations aux autres, tant au niveau du ressenti de sa perception imaginaire, comme l'impression d'être un poids sur les autres ou pas, que du vécu, modifient le rapport à la mort et le désir de la hâter. Et chez les personnes qui ont un bien-être spirituel conséquent, il y a une absence de désir de hâter la mort. Le bien-être spirituel impacte positivement les malades qui, à travers leurs croyances, vivent mieux leurs souffrances et leur fin de vie. Voilà, merci pour votre écoute.
Merci beaucoup Stéphane Blanc. Nous venons de recevoir un SMS. Pouvez-vous redonner les coordonnées du livre de J.P. Benezek? Enfin, vous semblez dire que les visions de fin de vie ne sont pas réelles.
Alors, comme j'ai dit, l'objectif, moi, en tant que psychologue, c'est de ne pas prendre position. Donc, c'est un phénomène qui est décrit régulièrement. Donc, c'est à prendre en compte. Moi, l'objectif en tant que thérapeute, c'est de voir l'effet bénéfique ou pas de cette vision. Donc, lorsque la vision va majorer les angoisses du patient, ben là, l'objectif, ça va être d'essayer de les réduire pour essayer, parce que nous, on œuvre à l'apaisement. Après, si le patient verbalise que vraiment cette vision lui fait du bien ou que nous, on peut percevoir que ça a un effet bénéfique pour le patient, l'objectif, voilà, c'est, on n'est pas là pour lui confirmer ou pas cette vision, mais de lui permettre de l'accueillir sans avoir l'impression d'être fou déjà, et puis qu'il puisse la vivre pleinement. Et après, chacun va le mettre en fonction de ses croyances, de sa foi. Et donc, un soignant qui va avoir la dimension croyante va être plutôt dans l'optique de se dire voilà, qu'il y a quelque chose qui est réel, qui se passe. Un autre soignant qui va être beaucoup plus dans quelque chose de cartésien va dire que c'est quelque chose qui est neuronal pour permettre un certain apaisement. Donc nous, on est, en tant que thérapeute, on n'est pas là pour valider ou invalider ce que le patient vit, on est là pour l'accompagner. Donc c'est pour ça que lors de ma description, j'ai bien précisé voilà, qu'il fallait être neutre, ce qui permet à chacun, après vis-à-vis de cette situation, de mettre le sens qu'il souhaite.
Voilà, merci. C'était une question de Marie-Hélène. Voilà, merci Marie-Hélène pour votre question.
Et après, elle voulait les références du livre, je crois.
Les références du livre, oui.
Donc du coup, au niveau de cette intervention, j'avais 5 livres que je voulais conseiller, mais bon, vu que j'étais un peu long dans mon intervention, je ne les avais pas précisés. Donc ce livre-là, c'est « La mort ne s'affronte pas ». Et donc c'est un ouvrage de Jérôme Alric et de Jean-Pierre Benezek. Aux éditions Soran. Après, il y avait ce livre qui était aussi très intéressant de Tanguy Châtel, Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie. Et après, il y avait un ouvrage de Nicolas Diatte, Un temps pour mourir, dernier jour de la vie des moines, où là, on voit comment les chartreux vivent la fin de la vie. Et c'est des ouvrages voilà, qui sont très intéressants et qui permettent vraiment d'avoir un éclairage un peu hétéroclite sur cette fin de vie.
Alors peut-être pour finir, en fait, ce que vous avez dit sur les mécanismes de défense de l'entourage, ça m'a fait penser à une famille dont la maman, qui avait une soixantaine d'années, avait un cancer. Les enfants ont préféré ne rien dire à leur maman en disant « mais alors je ne juge pas les enfants, ils ont fait ça en croyant bien faire, hein. On ne va pas lui dire qu'elle a un cancer, sinon elle va se laisser aller ». Donc la maman a néanmoins subi tout un tas d'examens et d'opérations également. Et jusqu'au bout, elle n'a pas entendu le mot cancer. Et donc le cancer s'est généralisé. Le jour où elle est morte, en fait, elle a vu les médecins qui discutaient très sérieusement entre eux. Certainement que la situation, son état de santé s'est encore aggravé. Et elle a été prise de panique, elle est tombée dans le coma, elle est morte quelques heures après. Mais finalement, elle n'a pas été préparée à cette mort, cette personne. Donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Je sais que vous avez bien expliqué que chacun a son propre parcours de vie et qu'on réagit différemment. Mais néanmoins, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des enfants qui seraient tentés justement de cacher la réalité de la maladie à leurs parents en pensant qu'ils ne supporteraient pas cette vérité?
Après, à ce niveau, il y a eu un changement au niveau du droit aux patients. Avant, c'est vrai qu'on était dans une dynamique où on ne disait pas toutes les choses au patient parce qu'il fallait qu'il ait le moral, parce qu'on était dans cette dynamique où il fallait que le patient soit combatif pour pouvoir avoir les traitements. Mais maintenant, on s'est rendu compte de l'effet délétère que pouvait avoir ce fonctionnement voilà, quand ça se passait mal et que du coup, le patient n'avait pas le temps de cheminer ou des fois même tout simplement au niveau matériel de mettre en place certaines choses pour protéger ses proches ou de dire certaines choses à son entourage. C'est ça que maintenant, la loi dit qu'on doit la vérité au patient. Bon, après, c'est avec tact. L'objectif, c'est pas d'être violent et d'annoncer à un patient qu'il va mourir de façon brutale comme ça, alors que des fois, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais il faut vraiment se dire que le patient doit voir la réalité de la situation. Et ça vient du fait, voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que le moral a une incidence sur les traitements. C'est sûr que le psychisme a sa part. Mais malgré tout, ce n'est pas le moral qui fait si on va guérir ou pas guérir. Il y a cette dimension-là, mais il y a des fois des gens qui ont tout à fait, qui sont combatifs, qui vont accepter toutes les chimios, et malheureusement, ils sont tombés sur un cancer qui était plus fort que les traitements actuels. Et le patient va en décéder. En plus, on aura l'impression de ne s'être pas assez battu parce qu'on lui a laissé entrevoir qu'il fallait se battre pour vaincre la maladie. Donc, il faut se dire voilà, que le patient a besoin qu'on lui dise certaines choses et lui dire voilà, qu'elle a une maladie grave, qu'on va lui administrer des traitements parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse s'en sortir. Lui dire que voilà, qu'il y a un risque de mourir comme toute maladie grave. Ça peut lui permettre voilà, de dire certaines choses. Mais après, je comprends que c'est pas... Déjà, c'est pas à la famille de dire ça. C'est pas à eux à être porteurs de cette annonce. C'est aux professionnels à assumer leur positionnement. Et le proche, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est que la personne souffre le moins possible. Donc, par mesure de protection, il va essayer de cacher certaines choses. Mais il faut se dire que le malade vit les choses de l'intérieur. Donc, il n'est pas dupe. Et puis la difficulté, c'est que quand même, ça vient parasiter la relation dans ces derniers moments, qui sont les moments, entre guillemets, les plus cruciaux, où on peut échanger certaines choses. Ben, le fait de se mettre dans une posture pour protéger l'autre, mais qui n'est pas une posture de vérité, ça ne peut avoir des conséquences pas très positives pour la suite.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Plan. Nous arrivons au terme de cette émission.
Merci de m'avoir invité, de m'avoir reçu.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.